Chapitre 3 Jésus-Christ, le divin rédempteur du monde.
Le salut ne pourrait pas venir au monde sans la médiation de Jésus-Christ.
Épisode de la vie de Joseph Smith.
Des années avant la naissance de Joseph Smith, son grand-père paternel a ressenti qu'il se passerait quelque chose dans sa famille qui révolutionnerait le monde. L'histoire de Joseph Smith déclare « Azael Smith, mon grand-père, prédit il y a longtemps qu'un prophète serait appelé dans sa famille, et ma grand-mère était tout à fait sûre que cela s'était accompli en moi. Mon grand-père Azael mourut à East Stockholm, comté de Saint-Laurent, New York, après avoir reçu le livre de Mormon et l'avoir lu presque en entier. Et il déclara que j'étais bien le prophète dont il savait depuis longtemps qu'il viendrait dans sa famille. En tant que prophète du rétablissement, l'un des rôles les plus importants de Joseph Smith fut de témoigner de Jésus-Christ. Il lui avait été accordé la connaissance personnelle de la divinité de Jésus-Christ et de la compréhension de son rôle de rédempteur du monde. Cette connaissance a commencé par la première vision, quand le jeune Joseph a vu notre Père céleste et Jésus-Christ et a entendu le Père déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. » Joseph Smith, Histoire, chapitre 1, verset 17. Au cours de cette expérience sacrée, Joseph a eu le privilège d'être instruit par le Sauveur du monde. Le 16 février 1832, 12 ans plus tard, le prophète traduisait la Bible, avec Sidney Rigdon comme secrétaire chez John Johnson à Hiram, Ohio. Après que le prophète eut traduit Jean chapitre 5, verset 29, qui décrit la résurrection des bons et des méchants, une vision s'ouvrit à Joseph et à Sidney, et ils virent le Sauveur et conversèrent avec lui. Par la puissance de l'Esprit, nos yeux furent ouverts et notre intelligence fut éclairée de manière à voir et à comprendre les choses de Dieu. Oui, ces choses qui étaient dès le commencement, avant que le monde fût, qui furent établies par le Père, par l'intermédiaire de son Fils unique, qui était dès le commencement dans le sein du Père, de qui nous rendons témoignage, et le témoignage que nous rendons est la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est le Fils que nous avons vu et avec qui nous avons conversé dans la vision céleste. Et nous vîmes la gloire du Fils à la droite du Père et reçûmes de sa plénitude. Nous vîmes les saints anges et ceux qui sont sanctifiés devant son trône, adorant Dieu et l'agneau, lui qu'ils adorent pour toujours et à jamais. Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui, qu'il vit. Car nous le vîmes et ceux à la droite de Dieu, et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père, que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et que les habitants sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. Doctrine et Alliance, section 76, versets 12 à 14 et versets 20 à 24. Joseph Smith a de nouveau vu le Sauveur le 3 avril 1836. Le prophète et Oliver Cowdery s'étaient retirés vers la chaire située à l'est du temple de Kirtland. Ils s'étaient inclinés en prière solennelle. Alors le Sauveur était apparu devant eux. Et le prophète a déclaré « Le voile fut enlevé de notre esprit, et les yeux de notre entendement furent ouverts. Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pavement d'or pur, d'une couleur semblable à l'ambre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant que l'éclat du soleil, et sa voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux. Oui, la voix de Jéhovah disant « Je suis le premier et le dernier ». Je suis celui qui vit, je suis celui qui fut immolé, je suis votre avocat auprès du Père. Doctrine Alliance, section 110, versets 1 à 4. Par de telles expériences, le prophète a obtenu la connaissance de première main et est devenu un témoin spécial de la divinité du Sauveur.
Enseignement de Joseph Smith. Dans toutes les dispensations, le peuple de Dieu s'en est remis à l'expiation du Christ pour la rémission de ses péchés.
Le salut ne pourrait pas parvenir au monde sans la médiation de Jésus-Christ. Dieu a préparé un sacrifice en donnant son propre Fils, qui allait être envoyé en temps voulu, pour préparer le chemin ou ouvrir la porte par laquelle l'homme pourrait entrer en sa présence, d'où il avait été chassé pour désobéissance. De temps en temps, à différentes époques du monde, cette bonne nouvelle a été annoncée aux hommes. Jusqu'au temps de la venue du Messie. C'est par la foi en cette expiation ou plan de rédemption qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice qui fut accepté, qui se composait des premiers-nés du troupeau. Caïn offrit des fruits de la terre et ce ne fut pas accepté, parce qu'il ne pouvait pas le faire avec foi. Il ne pouvait pas avoir la foi ou ne pouvait pas exercer une foi contraire au plan du ciel. Il fallait l'effusion du sang du Fils unique pour expier pour l'homme, car tel était le plan de la rédemption, et sans l'effusion du sang, il n'y avait pas de rémission. Et comme le sacrifice avait été institué comme figure, permettant à l'homme de discerner le grand sacrifice que Dieu avait préparé, si l'on offrait un sacrifice contraire à celui-là, la foi ne pouvait s'exercer, parce que la rédemption n'a pas été achetée de cette manière-là, ni le pouvoir de l'expiation institué selon cet ordre. Par conséquent, Caïn ne pouvait pas avoir la foi, et tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Mais Abel offrit un sacrifice acceptable par lequel il fut déclaré juste, Dieu lui-même approuvant ses offrandes. Hébreux chapitre 11, verset 4. Assurément, l'effusion du sang d'un animal ne pourrait être profitable à personne si elle n'était faite par imitation ou comme figure ou explication de ce qui allait être offert par le don de Dieu lui-même. Et cela devait être accompli dans l'attente et avec foi au pouvoir de ce grand sacrifice pour la rémission des péchés. Nous ne pouvons croire que les anciens de toutes les époques aient été aussi ignorants du système des cieux que beaucoup le croient, puisque tous ceux qui ont jamais été sauvés l'ont été par le pouvoir de ce grand plan de rédemption, tout aussi bien avant la venue du Christ que depuis. Sinon Dieu a mis en application différents plans, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour ramener les hommes demeurés avec lui. Et cela, nous ne pouvons le croire, puisqu'il n'y a pas eu de changement dans la nature de l'homme depuis sa chute. Et l'ordonnance ou la pratique d'offrir du sang en sacrifice n'était censée être accomplie que jusqu'au moment où le Christ serait offert et aurait versé son sang, comme nous l'avons déjà dit, afin que l'homme puisse attendre ce jour-là avec foi. L'offrande des sacrifices ne servait qu'à tourner l'esprit vers le Christ. C'est ce que nous déduisons de ces paroles remarquables de Jésus aux Juifs. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Jean chapitre 8, verset 56. Ainsi donc, le fait que les anciens offraient des sacrifices ne les empêchait pas d'entendre l'Évangile, mais cela servit, comme nous l'avons déjà dit, à leur ouvrir les yeux et à leur permettre d'espérer le moment de la venue du Sauveur et de se réjouir de sa rédemption. Nous concluons que chaque fois que le Seigneur s'est révélé aux hommes dans les temps anciens et leur a commandé de lui offrir un sacrifice, ce fut fait afin qu'ils puissent espérer avec foi le moment de sa venue et être assurés que cette expiation avait le pouvoir de leur assurer la rémission de leurs péchés. Et cela, ils l'ont fait, des milliers de ceux qui nous ont précédés, dont les vêtements sont sans tache et qui, comme Job, attendent avec une assurance semblable à la sienne le moment où ils le verront au dernier jour sur la terre, et ce, dans leur chair. Job chapitre 19, versets 25 et 26. Nous pouvons en conclure que bien qu'il y ait eu différentes dispensations, néanmoins, tout ce que Dieu a communiqué à son peuple visait à attirer son attention sur le grand but et à lui enseigner à mettre sa confiance en Dieu seul comme auteur de son salut, comme cela est exprimé dans sa loi.
Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, toute l'humanité ressuscitera.
Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. Mais en relation avec ceci, nous croyons au don du Saint-Esprit, au pouvoir de la foi, au don spirituel reçu selon la volonté de Dieu, au rétablissement de la maison d'Israël et au triomphe final de la vérité. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous ressusciteront. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. L'agneau de Dieu a accompli la résurrection, afin que tous ressuscitent. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, et il en a donné l'assurance en ressuscitant des morts son Fils Jésus-Christ, point sur lequel est basée la foi de tous ceux qui croient aux annales inspirées pour leur joie et leur bonheur futur. Car Paul a dit aux Corinthiens, et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 17 et 18. Le Christ est assurément ressuscité, et s'il est ressuscité, il amènera par son pouvoir tous les hommes à se tenir devant lui. Car s'il est ressuscité, les liens de la mort temporelle sont rompus, afin que la tombe n'ait pas de victoire. Si alors la tombe n'a pas de victoire, ceux qui observent la parole de Jésus et obéissent à ses enseignements ont non seulement la promesse de la résurrection, mais aussi l'assurance d'être admis dans son royaume glorieux. Car il dit « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur ». Jean chapitre 12, verset 26. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ peuvent s'attendre, lorsqu'ils se lèveront de nouveau, à jouir de toute cette joie qu'ils possédaient ou espéraient sur terre. Je suis heureux d'avoir la chance de vous communiquer certaines choses qui, si vous les saisissez bien, seront une aide pour vous quand les tremblements de terre gronderont, que les nuages s'accumuleront, que les éclairs jailliront et que les orages seront prêts à se déverser sur vous comme des coups de tonnerre. Saisissez-vous de ces choses et que vos genoux, vos articulations ne tremblent pas et que votre cœur ne se décourage pas. Et alors que pourront faire les tremblements de terre, les guerres et les tornades? Rien. Toutes vos pertes seront compensées pour vous dans la résurrection, à condition que vous continuiez à être fidèles. Je l'ai vu par la vision du Tout-Puissant. Dieu a révélé son Fils du haut des cieux, ainsi que la doctrine de la résurrection. Et nous savons que ceux que nous enterrons ici, Dieu les ressuscitera, revêtus et vivifiés par l'Esprit du grand Dieu. Et qu'importe si nous les déposons en terre ou si nous sommes déposés avec eux quand ils doivent partir. Que ces vérités pénètrent donc dans notre cœur, afin que nous commencions dès à présent à jouir de ce qui sera un jour dans la plénitude.
Par l'expiation du Christ et l'obéissance à l'Évangile, nous pouvons devenir co-héritiers de Jésus-Christ.
Je crois à la divinité de Jésus-Christ et qu'il est mort pour les péchés de tous les hommes qui sont tombés en Adam. Nous croyons que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Après avoir créé les cieux et la terre, le sixième jour, Dieu descendit et dit « Faisons l'homme à notre image ». À l'image de qui ? Ils les créèrent à l'image de Dieu, l'homme et la femme, innocents, inoffensifs et sans tache, ayant la même personnalité et la même image que les dieux. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Et quand l'homme tomba, il ne perdit pas son image, mais sa personnalité gardait toujours l'image de son Créateur, le Christ, qui est l'image de l'homme et aussi l'empreinte expresse de la personne de son Père. Hébreux chapitre 1, verset 3. Par l'expiation du Christ, la résurrection et l'obéissance à l'Évangile, nous serons de nouveau rendus semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 29. Alors nous aurons atteint l'image, la gloire et la personnalité de Dieu. Le Père de notre esprit a pourvu un sacrifice pour ses créatures, un plan de rédemption, un pouvoir d'expiation, un plan de salut dont le grand dessein est de ramener les hommes en la présence du roi des cieux, les couronnant dans la gloire céleste et les rendant co-héritiers avec le Fils de l'héritage qui est incorruptible, sans tache et qui ne diminue pas. L'Écriture dit que ceux qui obéiront au commandement seront héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui dans la chair, afin d'être glorifiés avec lui. Romains chapitre 8, versets 16 et 17. Quelle consolation pour une personne endeuillée quand elle est appelée à se séparer de son mari, de sa femme, de son père, de sa mère, de son enfant ou d'un parent qui lui est cher, que de savoir que bien que l'enveloppe terrestre soit déposée et se dissolve, ils se relèveront pour demeurer dans les embrasements éternels de la gloire immortelle, pour ne plus être affligés, souffrir ou mourir, mais pour être héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est parfait, pur et saint, et il nous appelle à être comme lui.
Qui, parmi tous les saints en ces derniers jours, peut se considérer comme aussi bon que notre Seigneur ? Qui est aussi parfait ? Qui est aussi pur ? Qui est aussi saint que lui ? Peut-on trouver quelqu'un qui le soit ? Il n'a jamais transgressé ni enfreint de commandement ou de loi céleste. Il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche, ni de fraude dans son cœur. Où y a-t-il quelqu'un qui soit semblable au Christ ? On ne peut pas le trouver sur terre. Car la créature a été soumise à la vanité, non de son gré, mais le Christ l'y a soumise avec l'espérance. Romains chapitre 8, verset 20. Tous sont soumis à la vanité pendant qu'ils parcourent les sentiers détournés et les difficultés qui les entourent. Où est l'homme qui est dénué de vanité ? Personne n'a jamais été parfait sauf Jésus. Et pourquoi était-il parfait? Parce qu'il était le Fils de Dieu et avait la plénitude de l'Esprit et un pouvoir plus grand que n'importe quel homme. Alors qu'il était encore enfant, Jésus-Christ avait toute l'intelligence nécessaire pour lui permettre de gouverner le royaume des Juifs et pouvait raisonner avec les docteurs de la loi et de la religion les plus sages et les plus accomplis et faire en sorte que leurs théories et leurs pratiques paraissent sottises en comparaison avec la sagesse qu'il possédait. Nous espérons que les commandements de notre Seigneur sont constamment médités dans votre cœur, qu'il vous enseigne non seulement sa volonté en proclamant son évangile, mais également son humilité et son comportement parfait devant tous, même dans les moments de persécution cruelle et d'injures déversées sur lui par une génération méchante et adultère. Souvenez-vous, frère, qu'il vous a appelé à la sanctification, et faut-il l'ajouter, à être comme lui en pureté. Combien sage, sainte, chaste et parfaite devrait donc être votre conduite devant lui, et souvenez-vous aussi que ses yeux sont constamment sur vous. Quand nous réfléchissons à la sainteté et à la perfection de notre grand maître, qui a ouvert un chemin par lequel nous pouvons aller à lui, en s'offrant lui-même en sacrifice, notre cœur fond à cause de sa condescendance. Et quand nous pensons aussi qu'il nous a appelés à être parfaits en toutes choses, afin que nous puissions être préparés à le rencontrer en paix, lorsqu'il viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, nous désirons exhorter nos frères avec hardiesse à être humbles et à donner à la prière, à marcher réellement comme des enfants de la lumière et du jour, afin d'avoir la grâce de résister à toute tentation et de vaincre tout mal au nom digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car soyez assurés, frères, que le jour est vraiment proche où le maître de la maison se lèvera et fermera la porte, et personne, sauf ceux qui ont revêtu un habit de noces, ne pourra s'asseoir à la table du repas de noces. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14.
Conseils pour l'étude et l'enseignement.
Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou pendant que vous vous préparez à enseigner. Songez au récit des visions que Joseph Smith a eues du Sauveur. Qu'éprouvez-vous en méditant à leur sujet? Dans les temps anciens, les sacrifices d'animaux aidaient le peuple du Seigneur à ouvrir les yeux et à espérer le moment de la venue du Sauveur et à se réjouir de sa rédemption. Quelles sont les choses qui vous aident à regarder vers le Sauveur aujourd'hui? Une annexe est quelque chose qui est lié à une chose plus importante, de même qu'une branche est liée au tronc d'un arbre. Selon vous, pourquoi les témoignages des apôtres et des prophètes concernant l'expiation et la résurrection du Sauveur sont-ils les principes fondamentaux de notre religion? Comment pourriez-vous aborder votre service au foyer et dans l'Église si vous vous rappelez que toutes les autres choses sont des annexes de ces principes? Concernant les enseignements du prophète Joseph sur la résurrection, quel réconfort vous apporte la connaissance que toutes vos pertes seront compensées pour vous dans la résurrection à condition que vous continuiez à être fidèles? De quelle façon la connaissance de la résurrection nous aide-t-elle à commencer à jouir de ce qui sera un jour dans la plénitude? Réfléchissez à ce que le Sauveur a fait afin que nous puissions devenir co-héritiers avec lui. Pensez à la manière dont vous pouvez lui montrer votre reconnaissance pour son sacrifice expiatoire. Joseph Smith, le prophète, mentionne plusieurs des attributs du Sauveur. À quels autres attributs pensez-vous en méditant sur la vie et la mission du Sauveur? Pensez à ce que vous pouvez faire pour devenir davantage comme lui. Écriture en rapport avec le sujet. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 12. De Néphis chapitre 9, versets 5 à 26. Doctrine et Alliance, section 20, versets 21 à 29.